Salut, alors en fonction du moment où tu écoutes ce podcast avec Stéphane Brognard, eh bien il a peut-être déjà réalisé son défi. Alors pour te remettre dans le contexte, là c'est un échange avec donc Stéphane Brognard que j'ai déjà reçu deux fois sur l'émission. À l'époque ça s'appelait Mental de Trailer. Et donc c'est quelqu'un que j'adore parler, qui parle très bien, c'est un conférencier, il a toujours de très bonnes réflexions sur la vie, sur le sport, sur la façon d'être. Et là, il nous présente aujourd'hui son projet Galia 480. Alors, le projet Galia 480, eh ben, c'est tout simplement, entre guillemets, de réaliser 5 300 km autour de la France en moins de 480 heures, donc ce qui représente 20 jours environ. Voilà. Donc, comment est-ce que Stéphane s'est préparé pour faire ça? Quelles sont ses craintes? Quelle est son organisation, qu'est-ce qu'il s'attend en réalisant ce gros défi. Voilà, c'est tout ce dont on échange dans le podcast. Il y a aussi plein de trucs et astuces. Donc j'espère que l'épisode vous plaira autant qu'il m'a plu. Nous, on se retrouve à la fin du podcast. Bonne écoute, c'est parti.
Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton très très beau projet et puis de tout ce qu'on voudra pendant cette soirée, hein. Tu sais, c'est la parole est libre ici. Comment ça va Stéphane?
Écoute, ça va plutôt pas mal. C'est les meilleures journées, celles en ce moment. Tu sens que l'énergie, elle commence à rentrer, à te gonfler, et c'est pas mal aussi. Donc, je profite de ces instants avec des parties un peu moins rigolotes quand il faut préparer de l'intendance, des sites internet, des bazars. C'est moins drôle, mais on prend de l'énergie en ce moment. C'est top.
Super. Alors, hasard du calendrier, on a eu des annonces du gouvernement ce soir qui doivent te rassurer et te conforter dans la faisabilité de ton projet, j'imagine.
Alors, comment te dire? J'habite à Rochesson, au fin fond des Vosges, et les habitants sont encore persuadés c'est Jacques Chirac, le président de la République. Nous, le coronavirus, il arrive en 2030 minimum. Alors, si tu veux, on est un peu en décalage, mais blague dans le coin, oui. Bon, alors, j'avais déjà la chance d'avoir quelques informations un peu en avance qui me permettaient de dire qu'effectivement, à partir du 3 mai, je pouvais allègrement pouvoir vaquer à mes occupations qui dépassent largement le périmètre des 10 km autour de mon habitation, même si dans tous les cas, Opel couvrait largement l'opération et que ça avait été mûrement réfléchi de malgré tout de pouvoir quand même partir le 3 mai dans cette grande bambée française. Voilà.
Ok, super. Alors, ce soir, émission un peu spéciale, hein. On n'est pas, comme d'habitude, en train de raconter le parcours d'un athlète. Là, ce soir, on est un petit peu là pour parler de ton projet, de ton défi. Est-ce que tu peux, avant qu'on le détaille vraiment, parce qu'on va afficher la carte du parcours que tu vas parcourir durant ces prochaines semaines, est-ce que tu peux nous raconter la naissance de ce projet, d'où l'idée t'est venue et nous en dire déjà deux, trois mots pour ceux qui ne sont même pas au courant de ce projet, quelle est la nature?
Post-confinement pour vous, et moi c'était post-confinement traversée de l'Atlantique à la rame. J'avais effectivement envie de poursuivre mon aventure rame en allant effectivement vers le Pacifique pour un projet de plus grande ampleur et qui veut que j'aille traverser le Pacifique à la rame. C'est à peu près 6 mois en équipage d'aller d'île en île avec une énorme équipe, notamment de production, d'images, pour aller faire des relevés, des recensements de ce qui se passe actuellement dû au dérèglement climatique et notamment dans les conditions humaines dans lesquelles sont obligées de quitter certaines personnes leur île dans des embarcations de fortune et se retrouver sur nos côtes dans des conditions plus que hasardeuses et compliquées. En tant que réfugié écologique. Voilà. Donc, mais pour en arriver là, il était vraiment nécessaire de peut-être tout doucement gravir un peu les sphères de la notoriété, non pour flatter mon ego, mais pour me permettre d'aligner les bonnes planètes et d'ouvrir les bonnes portes pour pouvoir effectivement mettre en place une telle odyssée qui représente y compris un budget, mais aussi d'avoir un véritable relationnel autour de moi de personnes très concernées, tout à fait capables de m'amener à monter ce projet-là. Donc l'idée, effectivement, j'ai la chance d'être soutenu par une marque comme Opel dans le dans les défis que je monte. D'ailleurs, au passage, qui était le premier sponsor à MyCorn. Alors, comme quoi, j'espère pas du tout être dans ses pas parce que copier, jamais égaler, ça ne fonctionne pas. Mais effectivement, de pouvoir aller vers des projets qui ont vraiment du sens et notamment du sens humain. Donc, tout ça a voulu aussi que je, avec Opel, on aille se permettre de monter une opération qui était le Paris-Dakar à vélo et de vouloir aussi en battre le record de Steven Le Yarrick, qui au passage va venir faire quelques heures, voire quelques jours avec moi au début de Gallia 480. Et puis voilà, donc c'était un deuil, c'était aussi une façon de mettre en place une certaine autre notoriété qui, pourquoi pas, allait arriver dans les oreilles de certaines personnes capables de pouvoir m'aider à monter cette aventure incroyable du Pacifique à la rame. Et puis, ça n'a pas pu se faire parce que pour les raisons que l'on connaît, mais j'ai voulu, et c'est pas plus mal, finalement, garder à peu près les mêmes proportions autour de 100 000 km pour une bambée à vélo. Je me suis dit franco-française, et après tout c'est pas un plan B hein, franchement, parce que c'était quand même véritablement une bonne idée post-confinement que déjà avant d'aller titiller d'autres cieux au sein même de la France après tout ce que tout le monde venait de vivre plus ou moins avec douleur entre guillemets ou effectivement d'être un peu contraint à certaines choses, j'avais envie aussi de donner aussi une certaine image de l'accueil à la française, de la balade à la française, de, je sais pas, je pense à 1936, partir en balade à vélo pour aller pendant les premiers congés payés, j'en sais rien, mais ou le colporteur de bonnes histoires de village en village, et voilà, donc il fallait aussi en profiter pour avoir peut-être davantage gonfler ma popularité d'aventurier qui pourrait me permettre tout doucement de pouvoir acquérir suffisamment de renommée, d'avoir posé suffisamment des belles choses qui me permettent de me crédibiliser pour pouvoir un jour effectivement interpeller les bonnes personnes pour aller vers ce projet du Pacifique à la rame en équipage pour vraiment sensibiliser sur les conditions humaines des réfugiés écologiques. Donc voilà comment Gallia entre guillemets est née suite aux événements sanitaires. Et Gallia, c'est la goal. 480, c'est le nombre d'heures que je me suis donné disponible, le même nombre de jours qu'il était nécessaire de réaliser si je voulais battre le record entre guillemets de Paris jusque Dakar en vélo. Donc je vais partir lundi pour une bambée d'à peu près 5000 km au travers dans tous les sens de la France, qui va me conduire de Paris jusque Brest en ligne droite, pour tout doucement après glisser vers Nantes et après aller partir vers Vichy, Vienne, Roanne et ainsi de suite, jusque Grenoble, Gap, Sisteron et là le beau sud des gorges du Vernon, ça va juste être magnifique, jusque Menton, le pourtour méditerranéen jusque Perpignan. Et puis de là, je vais frotter les Pyrénées pour aller jusque Hendaye. De Hendaye, je vais remonter vers Bordeaux. Bordeaux, on va taper au travers. Alors, la carte n'est pas vraiment exacte, mais bon, vous aurez d'autres précisions pour aller après jusque Dunkerque, toute la frontière belge, pour ensuite arriver jusque Strasbourg. Et Strasbourg, tenter d'arriver avant le samedi 22 mai, avant 11h du matin, à l'église, en espérant que Marguerite n'ait pas fait cramer la tarte à la Brimbelle pour m'accueillir. Voilà un peu l'histoire. Et donc voilà, ça représente pour le côté sportif, vraiment peut-être de dire rapidement l'autre côté, beaucoup plus humain et peut-être plus sympa, entre guillemets, ça représente pour ceux qui aiment les chiffres une moyenne de 260 km de vélo par jour pendant 20 jours. Je sais pas, pour ceux qui ont fait un petit peu de vélo, je pense que ça doit un petit peu vous parler. Alors,
ouais, ça parle.
Je me suis préparé un peu pour pouvoir tenter de réaliser cette performance, qui n'est qu'un prétexte finalement, qui n'est peut-être, un livre d'or que j'aurais mis un titre qui s'appelle Gallia 480, clin d'œil à Benoît Gandolfi d'ailleurs, avec qui je traînasse pas mal et qui fait partie de mes grands amis et qui effectivement m'a initié ce nom Gallia 480. Ça s'est décidé en 24-48 heures, après le deuxième confinement, on s'est dit bon ben voilà, on voit bien que ça va pas être jouable. Donc on a créé cette trace et du coup voilà en gros ce que je peux te dire sur cette bambée entre guillemets de une bonne grosse moyenne tous les jours, ça c'est sûr, de traverser toutes les géographies qui sont tellement incroyables en France, en si peu de temps, tous les arts culinaires, je l'espère, hein, et là j'aurai de quoi, à coup de 7-8 000 calories par jour, hormis les supérettes et les boulangeries, j'espère le soir, car je ne sais pas du tout où je vais dormir. Entre midi et 14 heures, mon équipe à terre, là, en tour de contrôle, j'ai presque envie de te dire, va en profiter, je vais leur communiquer l'endroit vers lequel je pense arriver le soir. Et ils vont en profiter via les réseaux sociaux pour mettre tout ça en branle-bas de combat pour voir si une famille ou quelqu'un, une connaissance, est capable de pouvoir m'accueillir le soir. Hors de question d'aller à l'hôtel, j'ai vraiment envie d'aller l'accueil à la française. Ça, c'est une caractéristique aussi qu'il ne faut pas non plus négliger. C'est quand même assez gonflant d'entendre encore en 2021, entendre de certains Français, le français égoïste. Non, le français n'est pas du tout égoïste. Il suffit simplement de lui donner la possibilité de ne pas l'être et il n'est pas du tout égoïste. Le français est non, il s'en fout, il ferme ta porte. Non, le français est très accueillant. Il suffit simplement de lui donner la possibilité d'accueillir, et etc., etc. Le français, oui, on va passer de très bons moments ensemble et j'ai reçu plein de messages de gens. Ça va de l'école primaire d'un tout petit village qui dit Stéphane, normalement tu devrais passer en plein moment de cours et on traverserait bien le village tous ensemble avec les élèves de l'école primaire, c'est génial. À celui qui m'a dit écoute, je t'enquillerais bien la roue entre Brest et Menton parce que je trouve que cette diagonale est juste magnifique. Et ou des personnes. Alors il y a une grosse mention spéciale des personnes qui sont entre Dunkerque et Strasbourg et notamment vers Valenciennes, vers la trouée d'arrangée de cyclistes qui m'attendent. Et je pense qu'en plus, ils auront dans la musette de quoi largement couvrir les 8000 calories tous les jours. Donc voilà, c'est ça aussi, tu vois, c'est pas simplement un exploit sportif, c'est véritablement post-confinement, hein. Une véritable histoire. J'ai mis une étincelle, effectivement, et je pense qu'on va tous écrire ensemble les pages de ce truc. Voilà, donc je suis sans assistance organisée. Je tiens à souligner ce point qui peut-être prêter ou se demander bien à quoi ça veut bien vouloir dire, mais sans assistance organisée, ça veut dire que je pars donc avec un vélo Wish One, un vélo français tout à fait classique, hein, voilà, avec quelques caractéristiques que je me suis donné comme un monoplateau et des choses comme ça. Bon, bref, c'est des détails techniques. Et sinon, je prends un minimum de bagagerie qui s'appelle maintenant le bikepacking pour vous qui êtes peut-être encore beaucoup trailer, mais qui commence à devenir un petit peu, et notamment bikepacking qui est véritablement en train de prendre un essor et attention, j'ai envie de dire, ce que a connu l'ultra trail il y a quelques années, le bikepacking est en train de le prendre et ça va véritablement devenir une grande, j'en suis quasi sûr. Donc voilà, donc je pars avec une bagagerie très très simpliste qui me permet de pouvoir me protéger à peu près des quatre temps au travers de tout ce qui peut m'arriver au travers de la France en plein mois de mai, entre la montagne, la mer, le chaud, le froid, la pluie. Et puis quelques matériels techniques très succincts de batteries, de câbles pour recharger un GPS ou autre. Si jamais je ne peux pas forcément recharger le soir, que je sois obligé de dormir dans un abribus parce que personne ne veut m'accueillir, enfin bref, voilà. Et puis du matériel pour réparer, pour voilà. Donc je me débrouille. Et puis bah sinon ce sera les boulangeries, les supérettes, ce sera le magasin de vélo du coin si jamais j'ai vraiment un gros problème technique. Et voilà. Par contre, deux voitures me suivent ce relais pour venir rendre compte de tout ça. C'est Spotzel. Alors Spotzel, dans le milieu du bikepacking et du gravel, c'est un podcast de Richard Delaune, très connu dans ce milieu-là, qui fait partie vraiment des podcasts les plus écoutés et suivis dans ce milieu du gravel, bikepacking, etc. Et puis Photonomade qui viennent pour de l'image. Alors voilà, ils vont m'accompagner, mais ils seront là entre guillemets pour regarder la gazelle se faire pouffer par le lion. Et ils ne sont pas là pour intervenir, si tu veux. Voilà la belle histoire Galia 480, en espérant, entre guillemets, et je vais pas monopoliser toute la soirée, entre guillemets, mais je voudrais en profiter pour dire que à partir de samedi ou dimanche, selon l'avancée des choses, parce que c'est pas évident, j'ai une puce qu'il faut qu'on mette sur une map avec le parcours et pour avoir un suivi tout au long de la balade. À partir de lundi, vous pourrez allègrement voir la carte de France, voir le tracé exact, précisément sur la route exacte, c'est la trace que j'ai mis dans mon GPS, que je vais suivre et que vous pourrez suivre en live. Et si je passe pas trop loin de vous, de venir échanger quelques kilomètres avec moi, ce sera avec grand plaisir. Et puis voilà, et l'histoire va se mettre en place au fur et à mesure. On communiquera le soir, je pense arriver à tel endroit, est-ce que quelqu'un peut m'accueillir, etc., etc. Et puis voilà, et puis il va y arriver plein de choses, parce que forcément que 260 km en moyenne par jour, tout seul sur son petit vélo, il va y arriver tout un tas d'histoires, de rencontres, de mésaventures. C'est aussi ça l'aventure. L'aventure, c'est ça.
Voilà, t'as répondu à beaucoup, beaucoup de questions que j'avais, donc ça, c'est génial. Alors juste pour préciser, si jamais on veut t'accompagner sur une portion du chemin, comment ça se passe? On regarde où t'es et puis on prend le train en marche, c'est ça?
Ouais, c'est un peu la complexité de la dame qui est en face de moi aujourd'hui. Elle a été effectivement de faire coïncider une balise spot avec une map et mon tracé exact en relief, enfin en surligné sur la carte. Et une fois que ça sera mis en place sur le site, vous allez sur le site stéphanebrognard.fr, c'est écrit Galia Live et vous avez Galia 480 Live et vous avez la possibilité dessus de voir où se balade la petite puce. Et généralement, à côté de la petite puce, il y a un bonhomme avec un vélo. Et donc, il y a facile de me retrouver en étant exactement sur le parcours. Donc, vous zoomez et vous voyez exactement mon tracé. Donc, si je suis pas loin, il suffit de remonter à contre-courant. On a mis une sensibilité toutes les 5 minutes, une prise d'information toutes les 5 minutes. Alors, des fois, il y en a qui sautent, mais enfin, de façon quand même assez précise, finalement, on sait rapidement où je me trouve. Il suffit de remonter la trace ou de revenir à ma rencontre et vous pouvez allègrement venir passer quelques temps avec moi et ce sera toujours avec grand plaisir. Profitez-en pour mettre 2-3 trucs assez calorifiques dans la musette. Ça peut toujours m'être utile.
Un petit saucisson du coin, ça passe toujours bien.
Ouais, mais j'ai l'impression que, alors je commence à avoir un message, mais j'ai l'impression que les Bretons au niveau calories, ils sont pas mal. Hein. Ils sont en train de tenir largement le haut du panier quand même.
Les Cougnamènes, on sait recevoir. Juste en ce qui concerne l'organisation, la logistique, la préparation de ce défi. Ça représente combien de temps de travail pour combien de personnes ça a pris à peu près qu'est-ce que ça représente pour donner une idée un petit peu?
Je pars depuis mon retour de l'Atlantique dans une toute autre démarche que celle que j'ai pu peut-être éventuellement faire auparavant en tant qu'ultra-trailer et même en tant que début de mes aventures et même pour la traversée de l'Atlantique. Je pars dans une idée assez précise de ne plus vouloir vraiment avoir besoin, mais je ne voudrais plus forcément de partenaires purs et durs, de sponsoring comme on peut l'entendre, à coup de dollars et qui me permettent de pouvoir me payer des aventures. L'idée, effectivement, elle est maintenant que j'ai la chance de pouvoir donner un certain nombre de conférences dans des entreprises avec un véritable échange et un travail au préalable de vulgarisation et d'échange entre une entreprise, par exemple, et mes expériences vécues en aventure, plus encore qu'en ultra-trail. Et que ça, c'est monnaie en finance qui vont dans une caisse très particulière qui me permettent de dire que je peux me payer, entre guillemets, les besoins vitaux des aventures. Et que les relations de partenaires que je vais avoir maintenant avec des marques ou quoi que ce soit ne sera pas du donnant-donnant. On sera beaucoup plus en relation de faire ensemble. Et ça m'intéresse beaucoup plus. Et que qu'effectivement, si ça peut pas matcher, c'est pas bien grave, je me débrouillerai autrement. Donc actuellement, oui, en ce qui concerne, c'est. Et je veux aussi aller vers des aventures qui n'ont plus forcément la vocation à être belle ou à être grande parce qu'elle coûte cher et puis à coup de dollars, tu te payes une aventure. Non, non. Là, c'est une aventure qui se veut comme ça et d'autres, les autres qui suivront, auront aussi un tant soit peu cette vocation d'éviter que ça se règle à coup de dollars. Et là, en l'occurrence, mis à part le vélo qui m'a été offert par Wish One parce qu'ils ont un partenariat avec Opel, je pars du pied de ma porte et je reviens au pas de ma porte sans même dépenser pas grand-chose. Enfin, je veux dire, mis à part du matériel que tout à chacun pourrait bien s'offrir pour aller se faire une petite balade à vélo, ça ne m'a pas pris énormément de budget sur cette allocation que je réserve due à mes conférences pour pouvoir financer mes aventures et qu'en l'occurrence, mis à part peut-être la marque céramique qui a offert quelques t-shirts ou des choses comme ça, mais enfin, foncièrement, il n'y a pas eu une espèce d'ouverture des vannes de la part de beaucoup de partenaires, ni financiers, ni techniques, de quoi que ce soit. Et je préfère largement m'acheter, même si Oclem l'a proposé, d'aller acheter moi-même un paire de lunettes chez Julie, de la boîte à lunettes, là-bas à Saulxures-sur-Moselotte, à 160 balles la paire. Je préfère la payer elle-même parce que c'est elle qui travaille et que me la faire offrir par Oclem. Et finalement, bah, c'est pas plus mal. C'est-à-dire que c'est aussi... arrêter forcément que le petit consommateur se retrouve à payer ce que les autres là-haut ne s'achètent jamais. Donc, sous prétexte que ce sont des mecs qui ont une certaine visibilité, on n'est pas des prostituées, quoi. Donc, effectivement, je préfère partir largement dans cette démarche. Ça, c'était un point qui me semble important de le clarifier. Après, sur l'action, effectivement, préparer un ultra-distance à vélo et préparer une ultra-distance à pied n'est pas du tout... la même chose. J'aurais dit, d'ailleurs, c'est exactement vers quoi je suis parti. Je suis parti à peu près avec les mêmes recettes, celles que j'ai apprises depuis tant d'années grâce à l'Ultra Trail, et je me suis bien rendu compte que ce n'était pas forcément la meilleure des recettes. Et là, je sais, j'ai que de fonctionner toujours à courir beaucoup, à faire des tas de choses. Là, j'ai fonctionné par bloc. Alors, ça m'a été un peu imposé que dans les Vosges, on a eu 4 hivers qui a quand même duré 6 mois d'hiver, donc ça a été un peu délicat. Donc, j'ai fait par bloc de 2, 3 ou 4 jours. À coup de 200, 300 bornes. Il s'agit pas de rouler tous les jours 100 bornes. Non, non, il faut rouler des fois de temps en temps, 3 jours de suite à 200 bornes. Et on comprend tout. La manière de s'alimenter quand on est sur un vélo, la manière de comment on appréhende la fin de la sortie pour pouvoir réenchaîner le lendemain après 10 heures de vélo, comment les réglages techniques ont une importance capitale quand effectivement la position sur la selle, hormis déjà de trouver la bonne selle, mais va faire aussi qu'avec les kilomètres, les muscles ont tendance à se tendre et que finalement, il vaut mieux encore baisser un peu quand on fait de l'ultra-distance un poil de la selle. Enfin, il y a tout sur le type de bagagerie à emmener, ce que l'on emmène, ce qui est vraiment utile, pas utile. Il y a que depuis à peine un mois, donc je suis capable de te dire qu'effectivement je suis arrivé à quelque chose de précis, même physiquement. Il y a eu pas mal de métamorphoses et ça n'a pas été si simple. J'ai la chance d'avoir tout de suite rencontré les bonnes personnes. Je pense forcément à Benoît, à Bigot, je suis obligé de les citer, Nathalie Bayon, qui est la féminine qui se fait à peu près de mieux dans l'ultra-distance en vélo, mais ça passe aussi, voilà, Yannick Ranou, un ancien équipe de France de VTT, qui a aussi monté Bikest, qui est vraiment une communauté dont Thibaut Barognan fait partie d'ailleurs, de cyclistes, etc., et qui m'ont vraiment... à vitesse grand V. Je faisais du vélo, mais je faisais pas de l'ultra distance à vélo. Et il a fallu aller, même dans certains codes vestimentaires que Benoît Bigot a essayé de m'insuffler et que je me suis laissé attendrir. Bref. Voilà, en gros, pour t'expliquer, j'ai fonctionné sous forme de bloc. Donc, j'ai passé beaucoup de temps l'hiver après à faire de la préparation physique générale. J'ai 44 ans. Ça ne se prépare plus un corps à 44 ans comme à 30. Le temps d'adaptation est légèrement différent, mais ça passe encore suffisamment bien comme je le souhaite. On a eu beaucoup de neige, donc beaucoup de ski de rando, beaucoup de PPG. Et dès que je pouvais, bam, j'envoyais des blocs de 4, 5, 6 jours. Je descendais souvent dans le sud ou autour du Ventoux ou au pourtour méditerranéen. Et voilà, et dès que je pouvais, je trouvais des prétextes d'avoir des amis très loin à aller dire bonjour à 200 bornes. Je faisais un coucou, je revenais le lendemain et... Ouais, ça a plutôt bien joué parce que là, je me sens prêt. Alors, j'y vais pas la fleur au fusil. Effectivement, je suis sûr de rien, mais je suis sûr déjà d'être prêt. Donc, je suis prêt. Je vais partir allègrement au combat avec une certaine faculté de dire que je suis prêt. Donc, ça va me laisser de la disponibilité pour pouvoir faire face à tous les imprévus. C'est aussi ça la différence quand on fait de l'aventure et quand on fait du sport de haut niveau ou du sport assez codifié, c'est qu'on passe beaucoup d'heures à être capable de pouvoir dérouler une partition de façon presque impeccable, de minimiser totalement les parts d'incertitude. C'est un peu ça quand on fait du trail ou de l'ultra-trail, on arrive à quelque part à minimiser les parts d'incertitude. Là, en fait, quand on fait de l'aventure, on est dans totalement autre chose. Là, quand on fait de l'aventure, on est beaucoup moins performant intrinsèquement, mais par contre, on est dans une espèce de vigilance et de gestion d'incertitude en permanence. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire face. Ce que des fois, un ultra-trailer, pour un grain de sable, va rentrer dans la bagnole avec des tas d'excuses sur Facebook qui vont faire 14 pages, un mec qui fait de l'aventure, ça le fait rigoler, quoi. C'est-à-dire que lui, c'est par contre, c'est son quotidien, et c'est tout le temps, il arrive tout le temps des merdes, et que quelque part, toutes ces merdes, t'es capable, t'es obligé de les retourner pour en faire quelque chose de très positif, voire limite d'un accélérateur. Parce que sinon, c'est un petit peu comme se retrouver derrière une bagnole sur la route qui avance pas trop bien ou qui avance un peu bizarrement. Tu dis, tiens, alors où tu freines et puis t'attends et puis tu gueules ou tu trouves des bazars à raconter ou franchement, tu mets la poignée dans le coin pour avoir le problème derrière. Et bien, quand tu fais de l'aventure, c'est vite fait la poignée dans le coin pour avoir le problème derrière. Voilà.
C'est Mike Horn qui disait qu'il fallait connaître 5% des réponses avant de partir sur une expédition. Parce que si tu voulais connaître 100%, tu partais jamais.
Ouais, exactement. C'est exactement ça. Et un autre détail qui a vraiment son truc, c'est que effectivement, quand tu arrives proche d'une épreuve, quand tu es ultra trailer ou tu es trailer ou tu es coureur sur route ou triathlète, tous ces sports très codifiés, tu ne penses qu'à toi et tu fais toute ta préparation, puis la semaine avance et tu rentres dans une espèce de truc d'affûtage, de machin, de bidule. Et quand tu fais de l'aventure, tout part en cacahuète. Le moment où c'est le plus crevé, le moment où c'est le plus chiant, le moment où c'est le plus pénible, c'est juste la semaine avant. T'as des sollicitations, t'as des merdes à régler, il y a des trucs qui vont pas. Parce que t'es aussi bien l'organisateur, le baliseur, que le mec qui fait l'épreuve. Et je vais te dire, tu arrives dans un état physique, t'es presque content de partir parce que tu es rincé. Depuis une semaine et demie, on a fait un gros bloc la semaine dernière, mais sinon, j'ai plus trop l'occasion de pouvoir rouler parce que je gère tout un tas de bazars dont on se passerait bien, mais qui font vraiment partie de l'aventure. Et je peux te dire que les 180 premiers kilomètres lundi qui ont été mis au programme entre 11h du matin et 19h vont me permettre de me remettre en jambe, mais surtout vont vraiment faire du bien parce que j'aurai réussi à mettre tous les curseurs à zéro de tous ces bazars. Et quand je foutrai le camp, je serai bien content.
Fini ou pas fini, c'est parti, on y va, c'est derrière nous, tout ça, on n'en parle plus. Maintenant, on roule. Alors, du coup, c'est quand même assez fabuleux de se lancer comme ça à l'aventure, mais j'imagine qu'il doit bien y avoir des choses qui t'inquiètent un petit peu, peut-être des incertitudes, des craintes peut-être. Est-ce que tu les as identifiées, ces aspects-là ?
260 km de moyenne, on est déjà à border, hein. On est très borderline. Donc autant dire que effectivement, j'ai prévu de me lever à 5 heures, de rouler à 6 heures et d'arriver le soir entre, je sais pas, 17 et 19 heures. C'est déjà un paquet d'heures de vélo. Et normalement, on devrait être dans les coups. Mais alors, la casse mécanique, le jour avec du vent dans la tronche toute la journée, être un peu malade, un vrai coup de moins bien, tu chopes une fringale, t'as pas trouvé la boulangerie au bon endroit, une erreur de GPS, enfin tout peut arriver en vélo, ça peut vite devenir autre chose, quoi. Donc effectivement, il faut pourtant essayer d'assumer quand même cette histoire et que quelque part t'as pas le choix, hein. Donc ça veut dire que lui, tout ça a été identifié, la vraie casse mécanique qui te cloue, c'est pas parce que j'ai un multi-outil et puis que j'ai un dérive chaîne et puis que j'ai deux chambres à air que finalement, en plein milieu du pampa, si vraiment je suis coincé, à essayer de me dépatouiller avec tout ça pour aller rejoindre un magasin au plus proche, ça peut vite te mettre 50 ou 100 bornes dans le cornet et que t'es déjà 260 à assumer par jour. S'il faut être capable sur les peut-être 10 jours qui restent, à être capable de remettre 30 ou 45 km tous les jours, essayer de recombler le retard en 7-8 jours, c'est un peu une mission, quoi. Pour un peu que tu reprennes un peu de dénivelé et que tu reprennes un coup de moins bien et que tu commences à t'énerver, je peux te dire, ça peut vite devenir un autre chose. Mais je sais aussi que j'ai une certaine marge d'erreur, entre guillemets, qui me permet aussi, et je m'y suis habitué, de vouloir peut-être partir. Je peux encore gagner une heure le matin, je peux gagner une heure de soir. Et en vélo, ça pose pas de problème réel de pouvoir remettre des kilomètres si vraiment ça casse. La France est relativement bien fournie en magasin type pour la casse mécanique, hein. C'est un peu la problématique dans ce sport-là, c'est que t'as quand même, c'est un sport mécanique, donc tu en arriverais à gérer comme bon soit peu. Et encore bien, si vraiment, j'ai envie de te dire, tout part en cacahuète, mais que je voudrais pas et que j'arrive que le dimanche, je veux dire, la messe, c'est jusque midi, donc à Rochesson, donc ça devrait passer, si tu veux. Mais effectivement, ouais, j'ai quand même bien envisagé les choses, mais j'ai la chance d'avoir une belle petite communauté de personnes personnes depuis que j'ai annoncé cette bambée qui se sont vraiment ralliées à ma cause. Et je pense que véritablement, s'il m'arrive en plein milieu de, je sais pas, des Pyrénées ou quoi que ce soit, un vrai problème mécanique, je pense qu'en communiquant via les réseaux sociaux, il est quand même assez probable qu'il se raconte une belle histoire de l'aventure en ayant eu un dépannage à la sauvette par une personne sortie de nulle part avec justement le bon outil, le bon état d'esprit. Parce que c'est aussi un milieu, hein, le monde du vélo. J'ai découvert des tas de trucs, notamment des applications Warm Shower et compagnie, où finalement tu te retrouves un peu dans les situations où les gens s'inscrivent sur ce site. Ils sont prêts à accueillir à peu près n'importe quel cycliste qui viendrait passer une nuit avant de reprendre sa route le lendemain. Et il y a toute une, il y a véritablement un bel état d'esprit autour du vélo. C'est vraiment un chouette milieu que l'ultra distance à vélo et notamment les gens qui se lancent des aventures. Donc je me fais guère de soucis et c'est aussi ça que je vais chercher. Je vais chercher cette façon de se rentrer, de vivre des instants, même dans la difficulté, dans la gestion du bazar. La vraie vie, quoi. La vraie vie qu'on n'a pas forcément quand on fait du trail et de l'ultra-trail parce qu'on est là pour carburer sur un sentier balisé et point barre. Ce n'est pas la vraie vie. Enfin, je veux dire, c'est autre chose. Mais là, on est dans la vraie vie parce que je suis sur quelque chose qui est beaucoup plus peut-être... qui peut se passer tous les jours dans la vie, c'est comme ça. Donc, si on arrive à le vivre là dans une aventure, on serait peut-être capable de le vivre dans son travail et peut-être de le vivre dans son entourage et on s'en porterait pas plus mal. Ce serait peut-être aussi le clin d'œil qui pourrait être mis en image. Ce serait chouette que Galia 480, c'est aussi ça. Voilà.
Tu vois, je suis très content que tu portes ce message de solidarité qui existe en France et que de dire que le français n'est pas uniquement égoïste et puis pense qu'à sa gueule, etc. Pour avoir travaillé à Paris, où on dit que les gens sont très, tu vois, tu files ta route et puis tu fais pas attention aux autres. Et pour autant, à chaque fois que quelqu'un fait un malaise dans le métro ou quoi, t'as toujours des gens qui vont vers cette personne. Alors forcément, quand t'as 5 personnes autour, bah plus personne regarde parce que c'est bon, le gars il est assisté. Mais il y a toujours cette solidarité quand même et ça m'énervait toujours et ça m'énerve quand on dit que le français n'est pas solidaire et je suis très content que tu portes ce message.
Ouais. Ouais, ça me tient à cœur parce que j'ai le bénéfice de l'âge maintenant et je pense aussi avoir posé aussi des réalisations personnelles qui était nécessaire pour peut-être assouvir une certaine continuité dans ma vie personnelle et professionnelle et que maintenant je peux aussi m'autoriser de me détacher de ces rajouts de lignes à ton CV sportive ou éventuellement d'une certaine flatterie de ton ego dont j'ai largement dépassé tout ça, notamment après les 5 premiers jours d'une traversée de l'Atlantique pris en pleine tempête. C'est bon, j'étais réglé avec tout ça. Et que justement, ça m'intéresse maintenant de pouvoir focaliser sur moi grâce à des aventures un peu hors normes, ou on appelle ça comme on veut, mais qui peut-être un jour deviendront la norme d'ailleurs, parce que moi, comme d'autres qui font des choses extraordinaires, le jour ou l'autre, ça ne sera plus extraordinaire. Et c'est ça aussi qui est chouette. Ça fait peut-être élever le niveau optimum moyen à force de singerie de gens comme moi. Et c'est ça qui est chouette aussi. Mais que du coup, je peux aussi maintenant m'autoriser d'y donner une certaine connotation, une certaine couleur qui vont largement dépasser l'effort. Alors c'est un prétexte, c'est une accroche, on va dire peut-être, mais qui permet aussi de véhiculer un certain type de message. Non pour recevoir c'est beau ce que tu fais Stéphane, c'est beau ma message. Non, tout le monde là au fond de soi-même et que on est en train de vivre des situations voilà, qu'on est tous en train de vivre, et que vouloir aussi résumer notre vie à un parc d'attractions qui s'appellerait Disneyland, il faut arrêter ces conneries, quoi. Enfin, c'est totalement débile. La vraie vie, c'est pas de rentrer dans un parc d'attractions à 25 ans et puis d'en ressortir à 60 et qui s'appellerait Disneyland et que tout doit être manégisé. Non, c'est pas ça la vie. Enfin, voilà. Donc, je sais aussi qu'au travers de mes aventures, j'aime aussi faire passer ces messages que oui, on se fout sur la gueule pour des bonnes raisons si on a vraiment été capable de donner du sens à ce truc-là. Oui, c'est difficile. Oui, le chouchoutage, ça n'a jamais rien mené à personne, mis à part de faire des retardés et c'est tout ce que c'est. Non, il faut y aller. Il faut pas perdre une seconde. Il faut tirer par le haut et il est hors de question que ça continue dans le manège dans lequel on veut nous mettre. Non, c'est pas un manège. Pas envie du tout d'un manège, moi. Non.
Ah, très bien Stéphane, bah écoute, c'est vraiment encore une fois un très très beau message que tu délivres, même si tu le dis, hein, c'est pas ce que tu recherches, mais je te le dis quand même. C'est vraiment, enfin voilà, moi j'aime bien l'esprit. On fait de plus en plus de off dans le milieu du travail en ce moment. C'est vrai que c'est des choses qu'on a découvert pour beaucoup, hein, j'en fais partie. Avant, on faisait pas de off parce qu'il y avait des courses, donc on faisait pas de off. On a découvert ça, cette façon de voir le sport un petit peu autrement. Toi, tu l'abordes encore d'une façon, tu le dis, avec un niveau au-dessus, et peut-être que ça deviendra la norme à l'avenir. En tout cas, c'est toujours des moments de partage et c'est ça qu'on retient en fait. Ces moments qui sont uniques et surtout ces moments qui étaient imprévisibles. Et ça, dans ton parcours sur 20 jours, c'est sûr que tu vas en rencontrer des tonnes et des tonnes que tu serais incapable de donner à l'avance. Et je trouve ça juste génial, ce concept-là.
Il va m'en arriver des surprises et je pense que du premier kilomètre à la Tour Eiffel jusqu'au dernier, je pense que effectivement, mais ça, je l'avais bien découvert et j'ai commencé à bien le comprendre après 72 jours dans l'Atlantique. Ce phénomène est presque devenu un peu familier, si tu veux. Et j'étais très adepte de vouloir un peu tout maîtriser, contrôler, prévoir, organiser, dérouler une partition sans fausse note, etc., etc. Et effectivement, des 5 jours sur les 72 que j'ai passés dans l'Atlantique, je me suis rendu compte que moi, petit Stéphane Brognard, j'arrivais qu'en dernière roue de la charrette de tout un tas d'événements que l'univers avait envie de me proposer et que, effectivement, il me laissait une petite miette ou une petite possibilité éventuellement de m'exprimer en ramant pour pouvoir me tirer de là. Mais sinon, je ne décidais de rien du tout. Je n'étais strictement rien du tout. Et encore bien, sur un claquement de doigts, j'étais même rien du tout au point de ne plus être là du tout. Donc, après, effectivement, cette notion de ne pas non plus vouloir tout contrôler, tout maîtriser, mais par contre d'avoir suffisamment d'outils au couteau suisse pour pouvoir être capable de répondre et d'avoir de la disponibilité, d'avoir peut-être anticipé, ça tu peux quand même le faire, en fonction de ce qui pourrait éventuellement arriver, avoir des boutons interrupteurs, plutôt que comme quand tu fais du trail, la course sur route, du traitant, tu ne veux qu'il ne t'arrive rien, que ce que éventuellement tu aurais déjà décidé, une seule chose, non, non. Là, quand tu es dans la voiture, tu sais que peut t'arriver ça, 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 et en combien tu peux pas tout prévoir, ce qui pourrait t'arriver. Mais enfin, c'est en tout cas, c'est d'avoir déjà prévu en amont, et ça, c'est pas des heures d'entraînement qui te le font avoir, c'est de l'expérience, c'est de la relation aux autres qui ont déjà vécu sur l'aventure, qui sont capables de te dire, fais gaffe, moi il m'est arrivé ça, fais gaffe, moi il m'est arrivé ça, machin. C'est d'avoir les bonnes réponses au bon moment pour être capable de pallier à tout ça. Parce que sinon, effectivement, quand tu fais de l'aventure, si tu gardes peut-être un état d'esprit comme j'ai pu l'avoir, ou comme certains l'ont encore dans le triathlon, la course sur route ou autre, je veux dire, tu passes ton temps à abandonner, hein. Tu fais pas long feu dans l'aventure. Parce que l'aventure, c'est ça. Voilà. Tu perds en performance, mais tu es obligé en adaptation et en réactivité, en sachant très bien que tu ne pourras jamais vraiment carburer comme tu veux. Sur 20 jours, il y aura peut-être qu'une ou deux journées qui sont vraiment bonnes. Ou tu diras, tiens, dis donc, les planètes se sont alignées aujourd'hui pour moi, tant mieux. C'est toujours un énorme plaisir, mais faut pas rêver. Si j'en ai deux, c'est beau sur 20 jours. Et que les autres, eh ben, tu tends vers.
Mais en fait, c'est presque un état d'esprit que même dans l'ultra trail ou le trail, enfin, chacun fait son propre ultra trail à son niveau. Moi, j'aime bien dire ça. C'est un état d'esprit qu'on devrait avoir finalement. Voilà, on part sur un projet qu'on n'a potentiellement jamais fait. Il peut se passer plein de choses. L'idée, c'est de pas forcément partir avec l'état d'esprit tout va bien se passer, quoi. C'est qu'est-ce qui peut m'arriver et s'il m'arrive ça, comment je réagis? Et ça, même dans un trail de 20 bornes, ça s'entend, ça peut se dire pour quelqu'un qui ne serait pas habitué à ce type d'effort.
C'est ce qui fait aussi qu'une femme est beaucoup plus agile en ultra trail, si on peut parler plutôt de l'ultra, plutôt qu'un homme. C'est-à-dire qu'une femme, toute sa vie, c'est un espèce de gros tas de merdier qui arrive des couilles et des bordels en permanence. par rapport aux hommes où finalement c'est peut-être des super Formule 1, mais au moindre grain de sable, ça part en javel. Et c'est pour ça aussi que les taux d'abandon chez les femmes sur les longues, longues distances est finalement assez faible par rapport au taux d'échec proportionnellement au nombre de partants, plutôt qu'au taux d'échec chez les hommes. Effectivement, l'homme, il part avec une idée très précise, c'est tout juste s'il n'a pas déjà le résultat avant même d'avoir commencé. Certains athlètes sont déjà presque capables d'attaper l'organisateur justement, dire non, t'inquiète pas, j'ai prévu de mettre 26h23 à l'ultra trail du Mont-Blanc, mais qui est même pas obligé de courir, il suffit simplement qu'il envoie un mot, il a tout prévu, c'est déjà fait en fonction des entraînements, c'est déjà bazar. Non, effectivement, là tu pars et tu tends vers, tu essayes de faire au mieux pour que ça puisse passer et tu es capable de donner. J'avais déjà pas mal développé en ultra trail de vouloir exactement être, de donner les meilleurs de moi-même sur un très long terme qui était 2m50 devant moi et j'attendais qu'il y ait un mec qui me dise c'est bon grand, t'es arrivé, plein de bière, rentre chez toi. Là exactement, t'es obligé de développer à peu près la même chose parce que c'est déjà tellement compliqué qu'il faut être à même d'éviter qu'arrive le moindre truc ici et maintenant en permanence. Donc c'est la gestion aussi de ta physiologie. Là par exemple en vélo, voilà, très vigilant sur les peut-être les surcroît de watts que tu pourrais y mettre qui pourraient forcément handicaper le reste de ta journée. Et ça va très vite. Hein. Tu t'envoies 10 minutes un peu fort, je peux te dire que derrière c'est 4 heures où c'était pas vraiment pareil, prévu exactement comme ça, tu vois. Et tout ça, ça m'a beaucoup aidé aussi dans l'aventure de gérer ce machin où tu reviens à microcosme. D'autant que quand tu pars en aventure, tu pars quand même dans des durées qui sont beaucoup plus longues, encore même qu'un ultra trail, et que là, tu es dans une gestion où finalement, si tu veux imaginer combien de temps il te reste, tu tombes, mais t'as l'impression d'être jeté dans un avion sans parachute. Hein. C'est trop gigantesque. Et là, je pars pour, si je dois résumer ça, 20 fois 260 km. Non. Je vais gérer au mieux cette petite partie du jour. Et voilà, j'ai un vague plan, mais je suis en permanence vigilant et être capable de réagir très rapidement s'il arrive quoi que ce soit pour pouvoir régler la barre, entre guillemets, pour réaligner correctement, pour pouvoir filer au travers quand même de ce courant indélicat suite, je sais pas, à des tas d'événements qui peuvent arriver sur la route avec une mécanique, avec du vent, avec de la pluie, avec tout un tas de bazar. Donc voilà, mais je suis plutôt content de la tournure que prennent les opérations et je suis aussi content de voir qu'effectivement, même dans le monde de l'ultra trail, et je le vois au travers des athlètes que j'accompagne, qu'effectivement un véritable état d'esprit a bien changé. Et quand au mois de janvier, on a fait les bilans avec les 70 athlètes que j'accompagne, et je leur ai dit, écoutez les gars, partons déjà dans l'idée qu'il n'y aura pas d'épreuve cette année, et j'aimerais que vous soyez capables, on va faire ensemble, là ce week-end, ils font un 35-45 km chronométré pour tester aussi tout ce qu'on a mis en place depuis le mois de novembre avec de la PPG, et puis après on est passé de la PPS, on est vraiment parti dans une stratégie un peu particulière, et là pour la mi-juin, mi-juillet, je leur ai demandé de se fixer un défi personnel qui ait du sens pour eux, enfin, qui soit capable de me le justifier, et qui ait vraiment se tailler sur mesure, ou vraiment qui ait du sens pour eux, et qui soit aussi capable de dire que dès le départ, il est impossible à réaliser pour eux. Et là, on est parti et je suis très surpris de voir que les gens ne se sont pas simplement contentés de dire, bah tiens, j'avais prévu à cette période de faire telle course et je vais aller les faire en off. Très peu finalement, et beaucoup sont partis véritablement dans des défis, des gros défis perso, beaucoup à base de vélo pour rejoindre un endroit, réaliser quelque chose à pied et revenir en vélo. Et ça, c'est devenu une grande tendance et qui pour moi me plaît parce que je me rencontre aussi en retour de ces gens d'expérience. Que les athlètes te disent, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être beaucoup plus performant que ce que j'aurais pu être sur une course codifiée et que finalement d'avoir moi-même taillé sur mesure cette aventure qui me semblait à mes yeux totalement incroyable. Mais le fait que je me la sois appropriée au travers du sens que j'ai pu lui donner, et j'ai vécu un moment extraordinaire avec moi qui restera presque plus indélébile que la fameuse veste de l'Ultra Trail du Mont Blanc que tirait estampillé le lendemain de la course. Donc c'est vraiment chouette ça.
Ah, c'est sûr que ça a donné naissance à plein d'accomplissements, de défis personnels que les trailers avaient souvent envie de faire depuis longtemps et qui ne prenaient pas le temps, qu'ils n'osaient pas. Voilà. Alors, je reprends aussi ton expression que tu avais dans la précédente émission qu'on avait fait il y a quelques mois où tu avais beaucoup parlé du « ici et maintenant ».
où tu disais que le coureur, il fallait qu'il soit vraiment avec lui-même à l'instant T, à chaque instant, et que tu prenais l'exemple que si le pilote, s'il n'était pas dans la Clio, la Clio, elle allait forcément aller dans le talus au bout d'un moment. Là, j'imagine
Et encore, quand il a une Clio, parce que alors, je tombe aussi sur des numéros, les mecs qui veulent à tout prix avoir des moteurs de Porsche, mais ils ont toujours que des 4L entre les pattes. Pensez aussi avant d'aller foutre un moteur de Porsche dans vos bagnoles à coup de 30-30, de minute-minute ou je ne sais quoi. Pensez quand même l'hiver, avant de vouloir à tout prix travailler à la vitesse, comme j'entends ça à tue-tête dans tous les magazines, pensez déjà à avoir de passer de la 4L à la Clio, voire à la Subaru, voire carrément à la bonne bagnole de rallye, mais avec un bon châssis, des bonnes armatures à l'intérieur qui ne va pas péter au premier virage. Seulement après, commencer seulement au février à y mettre un petit moteur, voire un moteur plus important, ce sera beaucoup plus rentable, vous passerez un meilleur moment avec vous-même. Et oui, effectivement, si le cerveau qui est le pilote, que d'être à la buvette ou en train de jouer avec son téléphone, c'est quand même plus profitable pour être sûr que ça ne parte pas en couille, effectivement. Mais c'est exactement ça.
L'image, elle parle.
Je suis désolé. Hein.
L'image parle tout de suite. Hein, ça, c'est parlant, c'est assez visuel, on aime bien. Là, la différence de ton premier projet à la rame, là, tu vas avoir des gens autour de toi. Est-ce que t'as pas un petit peu peur quelque part que ce côté partage avec des gens te mette parfois dans une bulle qui n'est pas la tienne, si tu vois ce que je veux dire, c'est que tu serais obligé d'aller suivre le rythme d'autres ou parler quand on n'a pas forcément envie, tu vois, il y a pas ce côté là qui t'a traversé l'esprit?
Non, parce que alors on a beaucoup roulé sur du long là pendant toute la préparation et on s'est des fois en groupe, des fois autre. Je suis vraiment très très bien calé maintenant sur la gestuelle, la rythmique et la fluidité, la note à tenir, la pression interne à tenir qui me permettra de tenir toute l'épreuve. Et je pense aussi que la plupart des personnes qui vont venir rouler avec moi, alors effectivement sur des fois quelques courts kilomètres, peut-être des personnes moins expérimentées dans le domaine du vélo ne sauront pas forcément comment eux-mêmes se caler par rapport à moi, ce qui peut des fois se comprendre, mais que la plupart du cycliste averti, même s'ils ne sont pas des cyclistes qui font de l'ultra distance, seront aussi, parce que c'est un sport c'est un sport assez particulier, hein, c'est quand même c'est rude hein, comme épreuve, auront largement la capacité à plutôt s'adapter, voire à être capable, pourquoi pas, de faire tourner un peloton à une allure qui serait calée sur la mienne. Et ça, un mec qui a un peu roulé en peloton, qui a un peu roulé en groupe, c'est rapidement se caler, c'est effectivement sur le, je vais pas dire un leader, mais enfin sur la personne éventuellement que l'on viendrait avec lequel on viendrait rouler, qui aurait déjà une paire de kilomètres. C'est toujours ce petit coup d'œil au moment où on passe, on prend pas un relais à 45 à l'heure quand le mec il a un vélo de 13 kilos avec déjà 3000 kilomètres dans les pattes. Non, ça, je ne fais aucun souci là-dedans. Le cycliste n'est pas du tout quelqu'un qui a envie de se mettre en avant parce que c'est un sacré sport d'équipe, attention. Hein. Le vélo par rapport à la course à pied est véritablement un vrai sport d'équipe, vraiment. Et il se passe toute une vie quand on n'est rien qu'à 4 ou à 5, pour toutes les gens qui écoutent, qui ont déjà, même qui font du trail, la plupart des trailers font du vélo de route ou font pas mal du vélo de route, savent aussi que déjà il y a une petite vie à l'intérieur d'un groupe de 4 et qui est toujours très sympa. Et je pense que des petites vies de petits pelotons, je vais en vivre plein et à chaque fois avec des particularités, des originalités. Et on aime cette petite vie de peloton quand ça tourne régulièrement sur des grandes portions. Et je pense que voilà, dès qu'on est breton, je pense qu'on est aussi un peu rouleur parce que c'est aussi une grosse nation de trailers, mais aussi de rouleurs. Hein, voilà. Les plus grands cyclistes français viennent quand même bien souvent de par là-bas, même du côté de la Vendée et compagnie. Et ce sont des gens qui savent rouler et c'est toujours des bons moments. Les petits groupes, quand ça vit, là, c'est des fois un quart d'heure ou des fois deux heures, je trouve ça juste chouette. Donc, non, au contraire, je pense que ça va être des formidables échanges. Et voilà, et quand il n'y a pas un mot, que la mécanique et que ça tourne et que machin et que ça dure des fois 25, 30, une heure et puis qu'à un moment on relève la tête, on arrive dans un village, on remplit les bidons, il se passe une petite conversation de quelques minutes, une boulangerie, un truc, ça repart et tout doucement on sent que la mécanique se remet en route et c'est parti, les relais se prennent et c'est génial ça. Enfin moi j'adore, il y a un mec qui part, il y en a d'autres qui reviennent, enfin j'aime bien ce moment-là aussi.
D'accord, ok. Bah en tout cas, on te sent enthousiaste à l'idée de partir. Et
Ouais.
tant que la chaudière s'allume et puis qu'elle ne s'éteigne plus pendant 20 jours.
Alors, je ne sais pas si dans le monde du vélo, il faut trop parler de chaudière, si tu veux, parce que ça peut toujours être interprété. Donc,
Bon, bah
non,
écoute, que la pédale se tourne, je ne sais pas comment dire.
non,
C'est pas, malgré mon nom de famille qui est quand même Ino,
mais...
c'est pas un sport que je maîtrise plus que ça.
Non, voilà. Donc, il y a beaucoup de similitudes, hein, attention, hein, quand même, entre les deux sports. Hein.
Ouais, j'ai très peu goûté parce que accident de vélo, une bagnole qui m'a percuté par l'arrière, donc j'en ai déduit que c'était pas spécialement un sport pour moi, donc je le connais très peu.
Mais effectivement, et je trouve que le... Alors moi, j'ai jamais été vraiment confronté à des aberrations aussi, parce que là, j'ai quand même bouffé un sacré paquet. Depuis le mois de janvier, je suis à plus de 6 000 km de vélo, malgré l'hiver qu'on a pu avoir dans les Vosges. J'ai pu forcément être obligé des fois de constater des comportements qui sont très idiots, qui peuvent être limite dangereux. Ce qui veut dire aussi qu'effectivement, hein, il faut être très, 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 très vigilant, agile sur le vélo. Parce que de toute façon, qu'on ait affaire à des personnes qui soient de bienveillantes, notamment en voiture, en camion, ou des personnes qui, des fois, ça arrive, nous les premiers, quand on est automobiliste, ça nous arrive de perdre vigilance et de se retrouver dans une situation où on pourrait mettre quelqu'un en danger, ça nous est arrivé, personne n'est parfait, faut pas déconner. Mais ça veut dire aussi que sur le vélo, de toute façon, bienveillance ou pas bienveillance, s'il doit y arriver une couille, il y a intérêt à être sacrément agile et prêt. Et très vigilant. Faut pas papillonner sur le vélo. Et ça aussi, c'est consommateur. Hein. C'est consommateur d'une vigilance où des fois sur les sentiers, on peut alléger la vigilance quand on est sur un sentier plutôt plaisant à aller courir, type revêtement quand même assez propre. Par contre, en vélo, à part vraiment quelques portions, on est sûr de pas avoir du tout de danger possible imminent qui viennent de la route avec un nid de poule ou des débris sur la route, comme éventuellement des véhicules qui nous doublent. Donc ça demande une certaine vigilance en permanence et plus les kilomètres vont, plus on sent les coups. C'est pas pour ça qu'on immunise contre éventuellement ce qui pourrait nous arriver, mais effectivement c'est pas de tout repos rien qu'en termes de vigilance, d'attention, d'être capable de faire face à une éventuelle parce que la voiture, elle gagnera toujours. Donc, que ce soit un connard ou un mec qui a pas fait exprès ou vraiment des situations, il faut être prêt à sauter, il faut être prêt à être très vigilant. Ça m'est arrivé effectivement plusieurs fois pour éviter le problème de sauter dans le talus, de se laisser rouler, d'être prêt, quoi, en permanence.
Non, mais en tout cas, je ne te souhaite pas d'en arriver là pendant ce parcours, mais effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est les choses qu'il faut prévoir et que si ça arrive, eh ben, il faut savoir réagir et là, il faut savoir réagir très très vite.
Exactement.
Alors Stéphane, on arrive déjà à 51 minutes. Ça passe toujours très 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 très
Désolé,
vite.
je suis désolé.
Ah mais il n'y a pas de mal, hein. Moi j'ai rien de prévu ce soir, tu vois, j'ai pas de train à prendre là, donc c'est pas grave.
Bon, moi j'ai deux, trois trucs de prévu, notamment de me
J'imagine.
repasser avec cette map, mais sinon, je vais un peu me reposer.
T'as du code à taper, un petit peu de développement web.
Ouais, sans déconner, faut faire tous les métiers dans ce truc-là.
Est-ce que tu peux nous rappeler comment ça se passe pour ceux qui auraient raté peut-être le début, pour les gens qui souhaiteraient t'accueillir chez eux ou te faire bénéficier d'un petit ravito, d'un accompagnement, quel qu'il soit, comment est-ce que ça se passe pour ces gens-là qui souhaiteraient t'aider ou participer à leur échelle à ton aventure?
Achetez un deuxième frigo et remplissez-le.
De quoi?
De tout ce que vous voulez, un truc de calories à mort. Ça consomme entre 7 et 8 000 calories par jour. Un type qui fait Galia 480, c'est à peu près la norme. Hein. Ça, le vélo, ça consomme. Tous les matins, je vais partir de là où je me trouve, entre 5 h et 6 h du matin. Je roule. Je suis la trace GPS que j'ai rentrée dans mon GPS, un tant soit peu le plus proche possible de ce qui a été prévu, sauf impondérable. Entre midi et 14 h, Je saurais grossièrement, en fonction de l'état du bonhomme, du vent, de la situation, combien de kilomètres je suis encore capable de remettre dans cette deuxième partie de journée et de savoir approximativement, allez, à 10, 15, 20 kilomètres près, où j'arrive le soir entre 17 et 19 heures. J'envoie un message à Joy qui est un peu à la tour de contrôle ici. Je lui dis, écoute, ce soir, je pense arriver vers tel endroit. Elle en profite via les réseaux sociaux. Sur le site internet, il y aura aussi une case réservée à cet effet. Ce lundi 3 mai, Stéphane pense arriver à tel endroit, plus ou moins à 10 km. Si vous vous sentez dans la capacité, parce que vous êtes dans cet endroit ou pas très loin, vous cliquez sur ce lien qui sera mis en place via la plateforme et à partir de là, on expliquera brièvement, de façon un peu humoristique, que si éventuellement vous êtes prêt à accueillir moi ou nous, parce que je vois par exemple Steven Le Yarrick qui va venir rouler avec moi les deux premiers jours, il sera bien content aussi peut-être d'avoir un petit logis, ce sera une ou deux personnes. Et à partir de là, une fois que les personnes se seront éventuellement inscrites, enfin où on aura rappelé Joy, enfin voilà, on va faire les choses simplement, hein, on va pas non plus trop complexifier les choses, et ben la possibilité, elle est effectivement de Joy me renvoie un message, il m'a dit bah voilà, tel petit village, c'est 10 km avant là où tu avais prévu, monsieur et madame sont prêts à t'accueillir et ils sont passés à la supérette du coin effectivement remplir leur frigo, ce qu'ils ont bien entendu que tu allais dégommer tout ce qui traînait en termes de nourriture et qu'on allait passer une bonne soirée à échanger, etc., etc. Et que le lendemain matin, tu allais te lever à 5 heures pour repartir à 6. Voilà. Après, en cours de journée, effectivement, c'est aussi le lien grâce à cette balise. Si des personnes voient que je passe pas trop loin de leur village, peuvent tout à fait envoyer un message via les réseaux sociaux, et ça me revient vite, hein, j'ai un téléphone sur moi, de me dire, bah voilà, dans tel village, il y a quelqu'un qui te suit depuis un paquet d'années et qui serait vraiment content et il t'a préparé le meilleur cassoulet du monde, il est 11h30. Effectivement, je m'arrête et je passe un petit moment très sympa avec lui, ça m'évite d'aller dans une supérette, acheter forcément des trucs qui sont un peu, bon, tu prends ce que tu trouves. Effectivement, ça aussi, avec grand plaisir, je vais m'autoriser une demi-heure par jour, pas plus, parce qu'il faut que le vélo avance, même pas vite. C'est-à-dire qu'au pire, tant pis, tu remplis les poches, tu bouffes un peu sur le vélo, même si tu roules qu'à 15 à l'heure, mais faut t'autoriser une vraie pause, et sinon le résultat, c'est tu t'arrêtes, tu fais vite fait trois courses, tu mets tout dans les poches, et tu manges en roulant. Voilà comment les choses s'organisent. Mais de toute façon, c'est pas fermé, hein. Je veux dire, c'est pas, c'est, il y a largement de moyens de communication pour dire, j'ai vu que Stéphane était quand même pas très loin de la maison, il est 10 heures du matin, franchement, s'il veut s'arrêter, boire un café, je lui ai préparé une tarte plutôt calorifique, c'est avec grand plaisir que je m'arrête, que j'engloutis tout ça, que je fais un bisou à tout le monde. Ah non, c'est vrai qu'on n'a pas le droit, et que je repars.
Un check voilà. Pas Covid.
C'est ça.
Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on mettra, enfin, je mettrai parce que moi je suis tout seul, donc je mettrai.
Non, non, tu sais, ça fait très multinational. On mettra.
je donnerai ça à l'équipe. L'équipe mettra. Tu mettras ça, Mich.
Évidemment.
Et d'ailleurs, je voulais te demander, on arrive un petit peu à la fin, comment tu trouves mon décor par rapport au précédent ?
Alors, j'allais y venir, j'ai dit donc, tu ne serais pas un peu passé dans d'autres sphères parce que la tapisserie a quand même sacrément évolué, quoi. On se croirait, je sais pas, là, on est dans, il y a un fond vert avec tout un bazar à l'arrière, en fait, ou...
Absolument pas.
Il y a une cabine maintenant.
Regarde.
Ah ouais, dis donc, le gars.
Bravo. Bon, un petit peu.
Ah, je vois ça. J'avais un petit faible pour la tapisserie quand même.
Ah, je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle un petit peu.
T'avais pas le choix là.
Bon, bah écoute, Stéphane, merci beaucoup de nous avoir parlé de ton aventure, de nous l'avoir fait vivre, même avant qu'elle se soit produite. Ça donne envie de te suivre, de t'accompagner sur cette épopée. J'espère que tu auras tout le soutien que tu peux avoir pour cette aventure et que tout se passera dans le mieux possible pour toi. En tout cas, on va suivre ça avec grand plaisir.
Bah merci à tous d'avoir passé ce petit temps avec nous deux là. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que ça vous a donné quelques petites idées de vouloir vous échapper de votre vie quotidienne et de venir vous aussi participer à votre hauteur, à votre capacité et autres, mais de dire que vous aussi, vous avez fait un petit bout de Galia 480. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur la route.
Super. Eh ben, écoute, Stéphane, encore une fois, merci. Et puis, merci à tous d'avoir été présents dans les commentaires. Il y a pas mal d'encouragements. Je te laisserai relire ça à tête reposée. Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée et bon courage, Stéphane.
Bye bye. Merci.
Voilà, alors je vous avais pas menti, hein, c'était un épisode qui était vraiment très très riche et très intéressant. On s'est bien marré avec Stéphane. Encore une fois, il nous a pas déçus sur sa capacité à nous raconter, à nous partager ses histoires et ses aventures. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup recevoir à chaque fois, c'est toujours un vrai plaisir. Alors si l'épisode vous a plu, ben comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles de préférence dans Apple Podcast ou dans votre application de podcast si vous pouvez la noter. C'est ce qui m'aide à faire référencer le podcast, mais surtout, partagez le podcast autour de vous. N'hésitez pas à me taguer dans vos stories quand vous l'écoutez. Ça me fait toujours plaisir de vous voir en train d'écouter le podcast. Moi, je vous dis à très très bientôt. Et puis si le défi de Stéphane n'est pas encore passé quand vous écoutez le podcast, eh ben, on suit ça avec attention et vous avez tous les liens dans la description. Voilà. Allez, très très bonne course, journée, running, sortie longue, tout ce que vous voulez, tout ce que vous faites en bonne route aussi peut-être, pendant que vous écoutez le podcast. C'était François et Stéphane. Bye bye.